Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujimaï au Kassai oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le processus de la réforme de l'armée et des services de sécurité se poursuit. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange vient de publier une ordonnance nommant des officiers généraux et supérieurs des FRDC et de la police. Dans le même décret du 7 juillet dernier, le président de la République met en retraite de nombreux militaires et policiers en âge avancé. Entre-temps, l'opération de distribution des cartes biométriques aux policiers notamment vient d'être lancée les lundi 8 juillet dernier. Près de 100 000 éléments recevront donc une nouvelle carte, tandis que plus de 5 000 policiers non en règle avec les dossiers administratifs vont être renvoyés du corps, a indiqué le chef de la police. Quel pourrait être selon vous l'impact de cette décision dans les processus de la réforme? 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez également nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez aussi la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou, Pierre Lamegi et Jean-Claude Siala réalisent cette émission. J.R. Lungembo vous la présente et Nicole Ngaka est à la supervision. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci de votre fidélité et merci également de votre disponibilité pour partager ces moments d'échange dans cette émission Parole aux auditeurs à travers une série d'ordonnances rendues publiques le dimanche et le lundi 7 et 8 juillet 2013. Le chef de l'État, Joseph Kabila, est déterminé donc à donner un coup de pouce à la réforme de l'armée. Parmi les ordonnances signées, il y a celles qui mettent à la retraite, comme je venais de dire, certains officiers. Et aussi, le chef de l'État tient donc à féliciter ceux qui ont honorablement servi la République. Une allocation de fin de carrière et une insertion sociale sont prévues pour les retraités. Il a promis également de veiller pour que les avantages de fin de carrière leur soient alloués. Il félicite également les heureux promis tout en encourageant les autres à redoubler d'efforts pour mériter de sa confiance. Nous avons confiance à Kinshasa pour intervenir et ouvrir les débats. Et Maître Adrien qui est à Kananga. Confiance, vous êtes avec nous, vous ouvrez les débats du jour. Bonjour, Confiance.
Bonjour, Mbote Djambo à tous les okapistes de la Radio de la Paix.
Voilà, Confiance, vous êtes avec nous. Il est temps pour nous de saluer également Maître Adrien qui est à Kananga. Maître Adrien, bonjour. Maître Adrien, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Voilà, bonjour à vous également. Voilà, nous allons vous accorder la parole d'un moment à l'autre. Il est temps pour nous de planter les décors avec notre invité, Mohamed Boulet, général Mohamed Boulet, donc général à la retraite, et honorable dans cette mandature. Général, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous avons tous suivi l'actualité, le processus de la réforme de l'armée et des services de sécurité s'est poursuivi. Alors, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, vient de publier une ordonnance nommant des officiers généraux et supérieurs des FRDC et de la police. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut, dire que ceci entre réellement dans les cadres de l'application, au fait, de la nouvelle loi portant statut de militaires et des policiers?
Tout à fait. Ceci vient en application de toutes les lois en rapport avec les forces armées, c'est-à-dire la loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées complétée par les statuts des militaires des forces armées qui étaient promulgués par le chef de l'État le 15 janvier dernier. Et maintenant, c'est le tour de la police parce que la loi numéro 13/03 du 1er juin portant statut du personnel de carrière de la police nationale vient alors boucler la boucle pour permettre donc de disposer de l'arsenal juridique et pour se lancer réellement la réforme, c'est-à-dire rajeunir et d'un côté l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo et de l'autre côté la police nationale. Ceci, ces lois avaient fixé une échéance. Donc, pour les forces armées de la République démocratique du Congo, au 11 septembre inclus, très bientôt, il faudrait absolument que les forces armées s'adaptent aux structurations telles que veut fixer par cette loi. Tandis qu'en ce qui concerne la police, c'est une année plus tard, c'est-à-dire le 11 septembre 2014. Ceci pour rajeunir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut assainir. Les effectifs sont totalement amortis et promouvoir d'autres officiers pour prendre des fonctions expressément déterminées dans cette loi. Et donc, ce que vient là, ce n'est qu'une série de mesures. Je l'ai dit la fois dernière, qu'il faudrait au moins quelque chose comme 56 textes réglementaires en ce qui concerne les forces armées, et peut-être identique aussi en ce qui concerne la police nationale, en termes de structure, en termes des zones de défense, et ainsi de suite, et en même temps aussi en ce qui concerne la police.
Voilà, on a toujours taxé les forces armées congolaises d'être au fait une armée qui comporte plus d'un officier, hein, plus d'officiers que d'éléments qui constituent les corps. Est-ce vrai? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par rapport à toutes ces mesures, on peut avoir une armée où il y a beaucoup plus d'éléments que des officiers?
Un emploi, une unité, c'est-à-dire l'emploi, donc les tableaux des emplois des forces armées sont bel et bien étudiés et sont à place pour être mis en application. Et donc, il est vrai qu'il y a des pléthores des effectifs, en termes que même la pyramide des grades étant renversée, qu'on a beaucoup plus d'officiers dans les différentes catégories subalternes, supérieures et généraux, par rapport aux sous-officiers et par rapport aux hommes des rangs. Cet assainissement va justement concerner cela, pour que dans le cadre de cette restructuration, on ne va plus faire n'importe quoi. Tout doit être mis en œuvre. Si on veut une unité standard, et donc il doit y avoir des organigrammes qui doit, du domaine réglementaire, qui doivent être pris pour déterminer les gabarits de toute unité, la plus petite unité, section, jusqu'à la plus grande unité de combat, ou une brigade, ou un régiment, selon le cas. Et donc, c'est la même chose pour la police. Donc, si les réformes sont bien menées, bien appliquées, je crois que nous aurons le temps, c'est un processus de longue haleine, d'ici 10-15 ans, on va avoir plus de pléthore des effectifs, parce que beaucoup d'effectifs amortis du reste seront assainis, comme c'est le cas maintenant.
Voilà, par ailleurs, disons, mis à part les ordonnances qui ont été signées, nous avons également suivi l'actualité, le chef de la police a annoncé le renvoi prochain, disons dans les jours à venir, de plus de 5000 policiers non en règle avec les dossiers administratif. Et là, c'est dans le cadre de l'opération de distribution des cartes biométriques, où il est attendu 110 000 éléments qui recevront donc une nouvelle carte, et plus de 5 000 policiers dans la règle seront renvoyés.
Mais je voudrais poser la question à comme c'est général de la police, et pourquoi des intrus aient fait donc soit dans la police en uniforme et concernant des comptes maintenant que 5 000 sont en maître hors de la police nationale.
Des faussaires, comme on les a qualifiés.
Des faussaires. Mais les faussaires, là, ils doivent être poursuivis. Pendant tout le temps qu'ils ont été, disons, en uniforme, ils ne bénéficiaient, et peut-être,
des avantages
liés à leur grade par rapport à ça, en considérant, mais il faudrait une commission d'enquête. Ceci nous permettra certainement, dans le cadre du contrôle parlementaire, d'initier une commission d'enquête pour savoir d'où sont venus les 5000 supposés policiers qu'on doit mettre à côté. Mais encore, il faut prendre des mesures de réinsertion pour suivre ça, parce qu'on ne serait pas étonné que ceux qui sont à la base de beaucoup de tracasseries, de beaucoup de problèmes, de violations des droits de l'homme, sont ceux-là qui sont en uniforme, et comment ils les ont-ils obtenus? Mais il faudrait qu'on sache comment, depuis quand, on a atteint 5000 qui venaient inutilement gonfler les effectifs avec toutes les tracasseries qu'on ne cesse de connaître ici et là, des cas d'assassinat et ainsi de suite.
Alors, est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne des auditeurs, mon général, par rapport aux avantages de fin de carrière qui seront alloués à tous ces militaires et policiers mis en retraite?
Écoutez, les statuts des forces armées, d'une part, et les statuts de la police nationale, du personnel de carrière de la police nationale, est clair là-dedans. Parce que vous comprenez que les statuts a 300 articles, tandis que celui de la police a 266 articles. Là-dedans, vous trouvez tout ce qu'il faut, parce que cela ne comporte pas seulement la sortie. Depuis qu'on vient, donc, toutes les dispositions générales, en ce qui concerne le recrutement, les droits et devoirs et incompatibilité, la carrière, le régime disciplinaire et de la procédure, de l'après-carrière et des dispositions finales. Donc, parce qu'ici, tout est pris en compte. Vous comprenez que maintenant, les militaires des forces armées et de la police nationale ne vont plus faire partie de ces statuts uniques qui concernent les agents et fonctionnaires publics de l'État. Et donc, c'est bien clair, il y a des avantages qui sont ici accordés en termes de services rendus et à la sortie, bénéficier des avantages qui correspondent aux catégories concernées par la retraite. Alors, donc, nous sommes, vous et moi, et la population ou le peuple qui nous suit en ce moment. Et donc, lorsqu'une loi comme celle-ci est sortie, promulguée, publiée au journal officiel, un mois après, c'est-à-dire 30 jours après, ça devient opposable. Et donc, nous avons le droit, que ce soit les forces vives, de nous approprier de ceci pour comprendre et ne pas poser des questions inutiles qui trouveraient des réponses à l'intérieur de ces dispositions des lois.
081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous recevons le premier auditeur qui va ouvrir les débats du jour. Confiance, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Oui, Confiance, vous avez la parole. Voilà, Confiance, vous êtes avec nous? Voilà, le temps que la ligne de Confiance puisse se rétablir, nous allons prendre Maître Adrien qui est à Kananga. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles.
Votre point de vue?
Merci beaucoup, JR. Je commence par saluer l'honorable Boulet, et puis je lui dis merci pour ses analyses. À mon humble avis, je pense que nous devons d'abord commencer par la réforme au niveau mental, hein, enlever d'abord le caractère que nous attribuons à nos militaires, parce qu'au jour d'aujourd'hui, un militaire et un policier est considéré comme quelqu'un qui a échoué dans la vie, est considéré comme quelqu'un qui n'a pas une bonne éducation, et lorsqu'il se retrouve dans ce corps-là, il ne fait que confirmer toutes ses rumeurs. Deuxièmement, je pense que la bonne réforme devait d'abord commencer par la rémunération de tous ces personnels-là, parce que c'est pour éviter déjà des tracasseries. Au jour d'aujourd'hui, il se pose aussi un sérieux problème de l'effectif. Il y a certains militaires, certains policiers qui se plaignent. Ils travaillent jour et jour. Donc, ils travaillent chaque jour, mais à la fin du mois, ils ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas payés, et tout ça, c'est la population qui en fait le prix. C'est pour cela, JR, je pense, nommer, donc, les militaires, donc, leur accorder des grades, c'est une bonne chose, mais n'ayons pas vraiment de courte mémoire dans ce pays. Pourquoi nous ne nous souvenons pas de l'histoire? Parce que l'histoire nous renseigne que c'est lorsqu'on procède à des nominations comme ça qu'il y a toujours des problèmes dans notre pays, parce que il y a des groupes armés qui pourront surgir pour dire que non, voilà, nous, on a nommé les autres, nous on ne s'est pas retrouvés dans cette nomination. C'est pour cela que j'aimerais terminer en posant la question à l'honorable Poule, qui est un expert, un ancien général. Honorable, j'aimerais savoir, la réforme au jour d'aujourd'hui, si on vous posait la question pour la priorité, il faut commencer par les textes ou bien il faut commencer par les hommes? Donc, c'est un problème d'hommes ou bien un problème de textes par rapport à notre armée pour qu'elle devienne excellente?
Voilà, merci beaucoup Maître Adrien. Pour vous, la vraie réforme passe par l'amélioration des conditions salariales, donc il faudrait bien rémunérer ces hommes de troupes pour permettre à ce que cette réforme soit réellement efficace. Et lorsqu'il y a des nominations pareilles, vous nous rappelez un peu l'histoire du pays, et qu'il y a toujours des mécontents, et ces mécontents-là rejoignent souvent les camps de rébellion ou de groupes armés. Et vous posez une question directe à notre invité, à savoir si la réforme à ces jours qu'est-ce qui peut constituer la priorité de la réforme à ces jours. Merci beaucoup, Maître Adrien de Kananga. Jean-Claude, vous êtes à Kiwanja. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Jean-Claude.
Personnellement, je voulais d'abord poser la question à notre invité. Notre armée est-elle nationale ou internationale? Si je pose cette question, c'est parce que moi je n'attends rien de cette ordonnance, car la priorité pour notre armée et même pour notre police, c'était d'abord d'extirper tous les étrangers. Ici, je cite très bien les Rwandais qui sont dans l'armée, les gens qui étaient dans l'armée patriotique. Et nous sommes des Kiwanja, nous sommes frontaliers avec le Rwanda, on se connaît très bien. Tous ces gens de l'APR, de l'armée patriotique rwandaise, qui sont venus chez nous. Comment ils sont venus chez nous? Vous avez suivi sur Radio France Internationale hier l'état de Bosco Ntaganda. Comment il est venu? Il a été déployé chez son milicien là-bas. Et de là, il est devenu général dans notre
armée. Jean-Claude, nous parlons de la nouvelle, de cette nouvelle ordonnance de 7 juillet. Et nous ne parlons pas de l'histoire passée.
Oui, mais écoute, Chier. Je dis, je n'attends rien de cette ordonnance parce que pour moi, je vous dis ma priorité, c'est d'abord de me répondre si notre armée est nationale ou internationale. D'aider. Quand nous voyons même notre justice militaire, nous avons encore des bons magistrats militaires pour qu'il y ait de la discipline. Ce n'est pas encore seulement de faire démonter les gens en grade. Nous en avons trop d'officiers supérieurs. Nous en avons suffisamment. Et souvent des gens qui ne sont pas à la hauteur, qui n'ont pas étudié, et qui vous les nommez colonel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous les nommez des majors. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et encore une fois, pour ce qui est de la réforme de l'armée, moi je rentre encore dans la justice militaire. Hein, c'est de nous permettre, parce qu'ils commettent beaucoup de dégâts. Ils ne peuvent pas être inquiétés, parce que si cette ordonnance-là avait été dans le sens de combler les vides que nous connaissons à l'auditorat général, à Kinshasa et à la haute cour militaire, pour que par exemple les gens comme les Tango Force soient jugés et d'autres généraux. Je serais très content, mais pas seulement pour monter en grade. Et enfin, donner des moyens, des bons salaires et de la ration à nos militaires, et non pas d'abord en grade. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Pour vous, il y a encore mieux à faire au niveau de l'armée, et surtout les vides qui est criant au niveau de l'auditorat militaire. Il fallait commencer par là, au lieu de passer à la vitesse supérieure, directement nommer les gens. Et selon vos propos, dans bien des cas, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas bien le rouage de l'armée. Et vous avez posé la question à notre invité de savoir si notre armée est-elle nationale ou internationale, parce qu'au sein de cette armée, il y a, selon vous, des étrangers. Donc nous verrons avec notre invité pour avoir un carnet. Merci beaucoup, Jean-Claude. Jonas, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Jonas.
Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Le sujet est tellement intéressant. Mais ce que moi je déplore, c'est quoi? Nous voyons dans tout ce que le président a signé, nous voyons les mêmes personnes ont eu des grades. Mais parce qu'il y a un problème dans cette armée, il y a l'impunité, celle qui vient de déplorer, le monsieur qui vient d'intervenir. Les mêmes personnes là sont promis au grade des généraux. Est-ce qu'ils vont changer leur mentalité dans le travail? Ça, c'est le premier point que je suis en train de dire. Le commissaire général de la police avait dit qu'il y a peut-être 5000 éléments qui doivent aller dans la vie civile. Le problème que je déplore là, c'est quoi? Les policiers qui pourront rejoindre la vie civile. Quel mécanisme que le gouvernement congolais a mis en sorte que qu'on ne puisse pas encore revivre les tracasseries, parce que ce sera le cas de banditisme que nous déplorons aujourd'hui. Ce sont ces mêmes gens-là qui reviennent encore tracasser la population. Et puis, concernant l'impunité, nous avons vu le président de la République signer les ordonnances, mais nous voulons voir que ces ordonnances-là puissent donner de bons résultats. Bon, le problème de guerre de l'Est, que cela puisse prendre fin. nous ne voulons plus entendre. On va se signer les ordonnances, mais les résultats en question, on ne voit pas. Ou ce sont des lettres qu'on va qui seront écrites pour déposer dans des tiroirs. Ah, c'est ça même le comportement de nos dirigeants. Pour finir, je propose quelque chose là. Nous voyons chaque mercredi, la MONUSCO organise une conférence de presse. Moi, j'aurais souhaité que les gouvernements, les ministres de la Défense puissent à tout moment envoyer peut-être un représentant. Comme ça, avoir à tout moment le temps d'expliquer à la population ce qu'il y a. Parce que l'invité qui est là a dit qu'on peut s'approprier les journaux officiels, connaître ce que le président, ce qu'on a prévu dans les ordonnances. Comment avoir les journaux officiels là? Mais peut-être avoir une idée claire sur tout ce qu'on a écrit là-bas. C'est pour cela que je propose à ce que les gouvernements ou les ministres de la Défense puissent avoir un représentant comme ça à tout moment expliquer ce qui se passe au sein de l'armée.
Voilà. Merci beaucoup, Jonas. Mais il faut noter que le mercredi, il s'agit bien entendu d'une conférence de presse hebdomadaire donc des Nations Unies. Hein, voilà, donc des Nations Unies qui sont partenaires à la RDC, et au même moment, donc le même mercredi là, est organisé aussi le point de presse du gouvernement congolais avec son Excellence Monsieur le Ministre Mende au Malaga. Oui. Donc je crois que c'est à ce niveau-là que les ministres pourraient peut-être expliquer certaines questions liées à la position du gouvernement, mais pour ce qui concerne ce qui se passe, disons, à la MONUSCO, il s'agit bien entendu d'une conférence hebdomadaire des Nations Unies. Merci beaucoup, Jonas. Vous avez parlé de mécanismes de réinsertion de militaires et policiers qui seront renvoyés. C'est une préoccupation, au fait, une préoccupation posée aussi par vos prédécesseurs. Nous ne manquerons pas d'avoir des précisions tout à l'heure avec notre invité. Alors, Kevin était à Johannesburg. Kevin, bonjour.
Bonjour, Jean-Claude.
Voilà, Kevin, vous êtes en train de rouler, on dirait. Oui, Kevin, vous êtes sur la route.
Je vais quand même vous ressasser.
Allô, Kevin,
Pouvez-vous quand même vous ressasser?
Voilà,
je suis en train de chercher les bonnes conditions pour vous atteindre.
Bon, voilà, alors si vous pouvez, comme vous continuez à rouler, chercher un endroit où vous allez parquer. Et puis vous, voilà, parce que là, on ne comprend rien de ce que vous dites, parce que là, vous sortez vraiment entrecoupé. Voilà, Kevin, en attendant que la ligne puisse s'améliorer, nous allons prendre Héritier qui est à Malawi. Au Malawi, voilà, Héritier est avec nous. Héritier, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, dommage, on a des sérieux problèmes parce que c'est lié à la distance. Nous allons, répondre à toutes les préoccupations qui ont été posées par les prédécesseurs. Et puis, on reviendra à vous, Kevin et Héritier. 081-893-15.
Parole aux auditeurs.
Voilà, il y a des auditeurs qui nous ont écrit. Elle Charlie Kalombo de Kananga qui dit ces décisions sont bonnes pour la réforme, mais ma grande préoccupation est l'encadrement de ceux qui sont envoyés à la retraite et surtout les 5000 policiers qui vont être renvoyés. Max Mangenda dit la réforme est bonne quand elle arrive à mettre dehors le mauvais élément de la sécurité qui font la honte des FRDC et de la police. Emmanuel Rafiki Elder dit ceci: la question ici est de savoir quels sont les critères qui sont pris en compte pour passer officier de grade à l'autre de l'armée congolaise. L'armée congolaise compterait maintenant plus d'officiers que n'importe quelle autre armée en Afrique, si pas au monde. Jacques Kakoulé dit c'est une décision qui vient à point nommé. Notre armée a en grande partie vieilli et a besoin d'une bonne réforme bien sélective. Général Boulet, honorable Boulet et général à la retraite, vous avez suivi les uns et les autres. Alors, comment orientez-vous les préoccupations de tout le monde?
Je voudrais rassurer le premier intervenant que nous voulons une armée nationale à politique républicaine. Et c'est pourquoi, dans les conditions de recrutement, que ce soit d'une part en ce qui concerne la police nationale, les conditions et modalités communes de recrutement, je voudrais lui rappeler l'article 25, tout recrutement dans le cadre des officiers ou sous-officiers doit avoir pour objet pourvoir à la vacance d'un emploi budgétairement prévu et repris au catalogue des emplois des forces armées. Dans ce catalogue, vous trouvez toutes les fonctions, tous les emplois prévus au niveau du haut commandement, au niveau interforce et au niveau des forces. Et à chacune de ces fonctions, de ces emplois, correspond un grade donné. Et pour ces grades-là, on ne fait pas un vote par hasard. Et donc la formation continue pour les officiers, l'officier, c'est-à-dire les sous-lieutenants, qui doit être admis dans les conditions fixées par cette même loi, après avoir participé à un concours. S'il réussit, il est admis à l'académie militaire. Notre académie se trouve alors à Kananga. Pendant des années de cours scientifiques et académiques, s'il réussit, c'est alors qu'il est nommé par le président de la République au grade de sous-lieutenant. Commence maintenant son parcours de carrière comme officier. Mmh. Il doit aussi se spécialiser dans les domaines des différentes armes et services. Et une fois là, il est affecté et il continue à être suivi sur le plan de la discipline par le chef de corps, c'est-à-dire le chef hiérarchique supérieur de l'unité à laquelle il appartient et il travaille. Et chaque officier, chaque sous-officier, chaque militaire doit être suivi par un dossier personnel qui met en cause, s'il le sait, tout ce qu'on pourrait lui reprocher, des actes de bravoure. Et même les nominations. Les nominations, tous les ans, il doit y avoir une commission qui doit analyser toutes les propositions qui viendraient des échelons inférieurs, avec l'état de punition et de la discipline. Et donc, je suis parfaitement d'accord quand on s'inquiète aujourd'hui que parmi nos éléments, il y aurait des étrangers ou des apatrides. C'est pourquoi tous les recensements qu'on a faits ont permis aujourd'hui de dégager de manière claire quels sont les effectifs par différents grades d'officiers, sous-officiers et hommes des rangs à dégager, c'est-à-dire à retraiter. Je suis parfaitement d'accord, parce que dans ce statut, et du statut de la police et de l'armée, les dispositions sont prises pour la réinsertion des retraités. À différents grades, vous pouvez trouver certains des généraux qui ont suivi une formation parfaite, qui sont, par exemple, licenciés, docteurs, tout ça en droit. Je peux citer les cas, par exemple, à la magistrature, nous avons des docteurs, le colonel Akele, par exemple, pour ne pas les citer, bien d'autres. Et alors, lorsqu'ils prennent leur retraite, il faut pouvoir les réinsérer. Mais les autres, il faut un suivi pour que l'on ne comprenne, qu'on ne soit pas surpris de les voir diriger des groupes armés à floraison comme nous vivons maintenant. Parmi ces éléments qui sont dans des groupes armés, la plupart seraient ceux qui, hier, pendant l'intégration, ont opté pour la démobilisation. Parce qu'ils n'ont pas été suivis à l'insertion, alors que Conader avait la tâche de le faire, et au niveau des provinces, et donc l'autorité qui a plusieurs casquettes, et donc le gouverneur des provinces, avec ses collaborateurs jusqu'au niveau des districts et territoires, devrait suivre. En 40-45, lorsqu'il y avait une démobilisation de certains éléments de la force publique qui n'avaient pas accepté de renouveler leur mandat, ils étaient suivis jusqu'au niveau du territoire. J'en sais quelque chose parce que certains de mes grands-parents qui étaient concernés allaient tous les 3 mois se présenter à l'administration du territoire pour savoir qu'il est effectivement là-bas. C'est cela, parce que ceux-là, et même ceux de 5000 policiers, qui ont pris, disons, quelques notions rudimentaires, et donc qui, du policier et du militaire, de manipuler les armes, et qui ne sait pas, lorsqu'ils vont quitter, ils n'auront pas pris précaution de partir avec certains effets militaires. Or, que dans la retraite, il y a des effets militaires qui doivent être remis à l'unité. Et tout cela par des règlements appropriés pour que celui qui quitte n'aille pas à se revendiquer et commencer à faire son petit groupe dans les quartiers où c'est trouvé.
Mais encore un auditeur tout à l'heure, honorable Boulay, on a l'impression que, disons ça c'est l'impression qu'a l'auditeur qui a parlé tout à l'heure en disant que c'est vrai, au lieu d'une nomination, on se rend compte qu'on a plus remercié même des gens qui ont des problèmes avec la justice, qui sont en litige avec la justice. Donc pour lui, la priorité aurait été d'abord de vider la matière qu'on a, la problématique de la gestion de l'auditorat militaire aujourd'hui.
Vous savez que la justice, notre justice, donc le Conseil supérieur de la magistrature avec son indépendance, Et donc, c'est à la seule justice de pouvoir ouvrir un dossier judiciaire à charge des X, Y. Mais si à l'armée, ceux-là qui sont remerciés, qui ont des dossiers pénals pour des crimes ou au nom de la présomption de l'innocence, il est naturellement indiqué que, au niveau des forces armées, que les commandants de ces grandes unités, après avoir analysé et prouvé que le fait dépasse le cadre de sanctions disciplinaires des corps, et que ça devient infractionnel, de les traduire en justice.
Des généraux qui ont été cités par le rapport des Nations Unies, clairement, mis à la disposition de tout le monde. Là, je crois que ça
la citation,
pas.
C'est une chose, les investigations ne nous reviennent pas, à moi, par exemple, qui viens parler ici comme invité, d'en faire. Et je crois que, sous d'autres cieux, lorsque la justice apprend, même pas calmeur, d'une rumeur quelconque,
et
se saisit automatiquement. Et donc, on n'a pas de leçons à donner à ces juristes qui ont appris les droits et pour l'appliquer au nom du peuple. Et alors, ils ont tout à fait raison de s'inquiéter que ceux-ci ont été cités, même bien que cités, mais ceux-là, s'ils sont devant la justice, auront à présenter leurs moyens de défense pour prouver leur innocence, ou les cas échéants, c'est à la justice de les charger, au procureur de les charger pour dire voici les éléments qu'on vous reproche.
Pour vous, honorable,
et avoir des preuves suffisantes.
Oui, pour vous, honorable, c'est que cette nomination vient à point nommé.
Écoutez, la nomination, parce que sans assainir, on ne peut pas s'attendre à voir une armée républicaine, une armée nationale, une armée professionnelle. Il faut chaque année nous habituer à cela. Chaque année, il doit y avoir une mise à la retraite. C'est comme dans, je vous dirais, une anecdote, parce que les chevaux, par exemple, on compte au 1er janvier qu'un cheval a une année. Et donc, chaque année, lorsqu'on est à l'armée, les hommes de rang, on dit, vous avez 7 ans. Et donc, 7 ans, il faut 3 mois avant cela que vous puissiez vous manifester de manière individuelle pour donc être réengagé. Et si vous ne l'avez pas fait, que vous n'avez pas changé de catégorie, vous devez vous attendre à la retraite. Et donc, à l'armée, il faut rajeunir. En rajeunissant, c'est alors que nous aurons une armée forte qui puisse sécuriser nos territoires, le territoire national, qui puisse donc accomplir ses missions et qui puisse aussi participer au développement sous pied de paix. Et bien entendu, à d'autres missions dans le cadre des Nations Unies et pourquoi pas de l'Union africaine.
Alors on va prendre la deuxième série des auditeurs avec Dadi qui est à Kinshasa, Kasongo dans la même ville et puis Étienne à Bukavu. Dadi, bonjour.
Oui, bonjour JR. Merci pour cette émission. Je m'en vais juste poser la question parce que les présidents ont presque tout dit. Je m'en vais juste poser la question à notre expert. Souvenez vraiment d'expert, est-ce que la nomination ou la promotion en grade et la mise à la retraite de certains militaires ou policiers de la force armée congolaise respecte-t-il vraiment les conditions qui peuvent amener à cela? Parce que à la cité, nous constatons, il y a même de ces familles-là qui ont même commencé à pleurer et dire que non, voilà, mon père ou bien mon grand frère a été retraité de manière un peu injuste. Alors nous, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, où on voit dans une armée où les grades de recrutement qui appartient des généraux.
Oui, Dadi.
Alors, on ne sait pas vraiment. Et puis, Dédé, les militaires et les policiers qui sont retraités, est-ce que le gouvernement congolais aujourd'hui a vraiment pris des
dispositions
visant à leur payer leur passion?
Voilà, merci beaucoup Dadi. Je crois que c'est une question. Est-ce que cette ordonnance, en fait, respecte les dispositions de la nouvelle loi portant statut et organisation des forces armées qui dit quelque part qu'il faut aller en retraite à l'âge entre 55 ans et 61, je crois. On verra peut-être si c'est vraiment le cas pour certains qui sont envoyés mis en retraite. Kasongo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Gérard.
Votre point de vue, Kasongo.
Oui Gérard, nous sommes tellement conscients parce que nous sommes Congolais. Nous ne devons pas entendre que Congolais, une grande nation, que nous soyons jugés.
ils soient contrôlés par la communauté internationale.
Il faudrait attendre qui? Obama parle.
Qui est réforme de l'armée, nous nous disons non.
Non, non, ben
le problème de réforme de l'armée, ça fait longtemps. Et quand vous voyez la liste, il n'y a que les gens qui ont tué nos propres frères. On nous remet encore les généraux. Nous prenons l'exemple de Denis Kaloum.
Non, non, il ne faut pas citer les noms des gens, Kassongo. Il ne faut pas citer les noms des gens. En fait, il ne faut pas faire un débat individuel, hein, débat sur des personnes. Voilà, parlons d'une manière générale et dans les en respectant des principes généraux.
Les gens là ont fait. En fait, aujourd'hui, il y aura les gens qui auront parti peut-être à la retraite. C'est bien partir à la retraite. Quand vous marchez sur la rue à Kinshasa, il y a des démobilisés, coupez les pieds, coupez la main, ils sont en train de marcher là dans la ville, qui ne sont pas considérés. Et vous prenez au moins plus de 5 000, vous l'envoyez à quoi à retraite? Est-ce que le gouvernement, quand il prend cette décision, est-ce qu'il saura mettre ces gens-là?
Voilà, merci beaucoup, Kassongo.
Je viens de voir ici dimanche, vers la commune de Baoumbou, j'étais de passage. J'ai vu une chose qui m'a tellement rendu méchant. Il y a une maman qui discutait avec les policiers et il y a un garçon qui est venu ravir les chargeurs de policiers et fuir avec. Et vous trouvez ça normal? Ça, c'est l'armée.
Oui, ben voilà, Kassongo, en résumé, donc vous posez le même problème que vos prédécesseurs qui ont parlé de mécanismes de réinsertion des militaires et policiers. Vraiment, vous êtes inquiétés, hein, par rapport à ça. Et je crois que notre invité va encore revenir sur ça pour vous permettre de vous faire vraiment une idée très claire par rapport à cette question. Merci beaucoup, Kassongo. Étienne, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Bonjour JR, bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Voilà, votre point de vue.
Oui, mon point de vue, moi je ne voudrais pas qu'on puisse considérer que les histoires qu'a évoquées Jean-Claude qui a intervenu bien avant sont des histoires du passé. Si on veut bien réformer l'armée congolaise, on doit éviter d'abord l'infiltration de notre armée par les officiers rwandais et les officiers ougandais. Sinon, vous n'y arriverez pas. Je suis heureux comme le général Boulet se trouve au studio, et s'ils approchent le chef de l'État, ils doivent lui prodiguer aussi ses conseils. Il y a aussi le problème de prolifération des groupes armés. Moi, je pense qu'avant de réformer l'armée, on devrait inviter tous ceux-là qui sont dans les groupes et leur poser la question qu'est-ce qu'ils voudraient, en fait que l'armée soit repoussée, réformée en un coup et tous ceux qui sont isolés. Par exemple, le Maïmaï et la multiplicité des groupes armés aujourd'hui à l'est ici au Congo est caractérisé par le chef Maïmaï. Mais quand le chef de l'État réforme l'armée, il réforme, il nomme les mêmes officiers, il n'implique pas les autres dans le processus, alors que le processus devrait mettre tout le monde sur la même table afin de savoir qui mérite quoi et qui ne mérite quoi. Mais aujourd'hui, beaucoup des officiers rwandais domine notre armée, et moi je ne vois pas comment est-ce que vous y arriverez.
Voilà, merci beaucoup. Alors, on tient donc à vous signaler que notre invité, ce n'est pas le général Oleko, c'est plutôt Honorable Boulet, qui est général à la retraite. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir appelé de Bukavu. Élie, vous êtes à Boutembo, bonjour.
Bonjour, bonjour aussi à l'invité.
Voilà, vous avez la parole.
J'aimerais d'abord encourager cette idée du président parce que ça laisse à ce que notre armée soit un peu rajeunie. Mais j'aurais dû ajouter, bon, à savoir pour ces soldats qui sont déjà infiltrés dans d'autres camps, donc qui sortent quoi de notre patrie, de notre service militaire, comment est-ce que nous pouvons les gérer? C'est là, parce que c'est là où, d'où peuvent venir exactement les problèmes, à savoir que ces gens-là, ces gens qui ont servi notre nation, savent plusieurs secrets. Et s'ils ne sont pas vraiment bien encadrés et bien en accord avec notre État, ils peuvent avoir des ennemis qui peuvent leur chuchoter quelque chose à l'oreille, quoi. Donc, j'aimerais qu'ils aient une bonne intimité afin qu'ils soient vraiment d'accord avec notre nation.
Merci beaucoup, Élie. On va partir vers Kananga pour retrouver Albert. Albert est là-bas. Albert, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste Albert Mwananga qui appelle depuis Kananga. Mais en tout cas, je salue l'idée de notre président de la République concernant les processus de la réforme de l'armée et les services de sécurité. En fait, quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose afin de retrouver une armée forte et responsable, capable de se défendre. Vous connaissez les conséquences que nous sommes en train de subir dans notre pays, précisément dans ce pays, à cause un peu de l'armée qui n'est pas tout à fait forte. Mais, monsieur le journaliste, j'aimerais tout simplement vous rassurer que dans la mesure où ces processus affirment un peu les caractères apolitiques, la prise en compte de la dimension genre et le recrutement des nominations en grade et comme en fonction, le respect des lois et les obligations, c'est ça même la problématique, monsieur le journaliste, qu'on peut observer pour retrouver la paix dans notre pays. Et à savoir encore, savoir comment rémunérer les agents de service afin d'éviter la corruption, la tracasserie et la mésentendue. Parce que nous croyons que ce sont toujours ce sont un peu des problèmes qui sont en train de nous frapper. Mais je voudrais poser la question à notre invité, M. Jean-Luc, si vous.
Oui, allez-y, vous m'accordez. Allez-y.
Oui. Nous remarquons que ce sont toujours les mêmes personnes. Mais je voudrais demander à notre invité que comment employer le mécanisme pour changer la mentalité de ce genre de personnes afin qu'on ne puisse pas un peu tomber dans le même. C'est parce qu'ils sont experts en tout et pour tout. Ils savent comment faire, entrer ici et sortir là-bas pour faire n'importe quoi que ce soit pour rendre notre pays un pays malheureux. C'est ça ma petite question que j'aimerais tout de suite poser à notre invité. Merci beaucoup, Albert Moana.
Voilà, parce qu'il s'agit là d'une question directe, honorable Boulet.
Oui, les changements de mentalité, vous comprenez maintenant dans les cadres, c'est pourquoi j'ai dit que c'est bien dommage que ces lois ne sont pas suffisamment vulgarisées, et encore que c'est au gouvernement de faire la traduction en quatre langues nationales pour permettre la compréhension et la lecture par tout et chacun.
Pour atteindre toutes les couches.
Pour atteindre toutes les couches. Mais ici, le problème des mentalités, ça concerne aussi la formation qu'on a. Il y a les troncs qu'on met, la formation des bases, et les troncs qu'on met pour les sous-officiers et les officiers. Et donc, dans les lois, les lectures, les dispositions croisées de ces dispositions font que pour des études, pour une formation à l'armée équivalent à un D6, il est admis, il est imposé que le programme qui sera mise à disposition pour le faire suivre par les militaires concernés, soit en même temps agréé par les ministres de l'enseignement primaire et secondaire en collaboration avec les ministres de la Défense nationale. En ce qui concerne l'académie et les autres études supérieures, qu'il le soit autant avec le ministre ayant en charge l'enseignement supérieur et universitaire. C'est pourquoi je l'ai dit, si tout le monde avait cette loi, donc beaucoup de ces questions ne se poseraient pas. Et que ce soit à ces différents niveaux de tronc commun, les militaires doivent être suivis individuellement en termes de morale, en termes de discipline, afin en termes de faits répréhensibles par la loi. Et lorsque c'est le cas, le commandant ne doit pas hésiter de traduire l'intéressé devant la juridiction militaire compétente. Maintenant, il faut comprendre que la retraite, ce n'est pas une sanction. Au terme de l'article 184, je le cite pour ceux qui n'ont, pour la bonne compréhension, la retraite est un droit. L'officier ou le sous-officier est mis à la retraite à la date de la limite d'âge. La limite d'âge est déterminée au tableau en annexe 4 de la présente loi. La fin de carrière par limite d'âge intervient d'office pour les officiers et les sous-officiers ayant accompli au moins 22 ans de service. Il est constaté par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Plus loin, il y a d'autres cas aussi, des cas de réforme, les cas d'inaptitude physique. Par exemple, en ce qui concerne les cas d'inaptitude physique,
On dit à l'article 183, lorsque l'inaptitude physique ou mentale est prononcée, l'intéressé est relevé de ses fonctions selon les cas par le président de la République, le premier ministre, les ministres ayant dans ses attributions la défense nationale. Maintenant, on est inquiet de savoir, pour ces militaires retraités, quels sont. Il y a des avantages que la loi a prévus, notamment à l'article, sous le pied de l'article 195. À la fin de la carrière, l'officier, le sous-officier, ou ses ayants droit tels que définis par le code de la famille, bénéficient selon le cas des avantages suivants. On énumère au nombre de 8, une allocation de fin de carrière, une pension d'inaptitude ou d'invalidité, pour ceux de nos frères là, invalides de guerre, une pension de retraite, une allocation de décès, une rente de survie et une rente d'orphelin, des soins médicaux, des allocations dites de vieillesse, des frais de rapatriement, des frais funéraires. Les pensions, rentes et allocations sont indexées au coût de la vie. Ils sont exemptés de tout impôt. Voilà, c'est ici l'effort que le gouvernement doit faire. Si pour retraiter ces gens,
mais c'est là où il y a
parce que le problème ne peut pas se régler avec le budget national. Parce que je l'ai toujours répété, et je répète encore aujourd'hui et maintenant, qu'on ne peut pas aller au-delà de 5% de la quotité du budget national pour régler tous les problèmes liés aux forces armées et encore moins de la police nationale. Qu'est-ce qu'il faut? La loi a expressément prévu les mécanismes pour régler ces problèmes par voie des recherches des moyens extra-budgétaires, c'est-à-dire la loi de programmation militaire ou de la police selon les cas. Je l'ai dit l'autre fois à une émission que nous attendons le ministre concerné, membre du gouvernement, que à la session de septembre, comme elle sera budgétaire, que ces deux lois viennent accompagner pour assurer que la réforme aura bel et bien lien et que les ayants droit bénéficieront de tout ce qui est prévu dans ces textes de loi, que ce ne soit pas une lettre des lettres.
Et qu'est-ce que vous direz à ceux qui proposent à la place, au fait qu'on mette le mécanisme de réinsertion du genre DDR ou
le mécanisme de réinsertion est prévu dans chacun de ces textes de loi, dans ces statuts. Que ce soit pour l'armée, j'ai évoqué ici. Et donc, vous comprenez qu'il y a
trois... Parce qu'il ne faut pas attendre maintenant qu'ils sont déjà en retraite.
Il ne faut pas attendre maintenant. Il faudrait que aussi...
Que les mécanismes soient opérationnels.
Que les mécanismes soient opérationnels. Comprenez, si nous prenons... Je venais d'acheter un livre ici. Les entreprises, auquel cas on pourrait réinsérer d'autres selon leurs capacités, que ce soit dans le domaine de l'administration publique, que ce soit dans le domaine de la diplomatie. Il faudrait qu'il y ait certainement également des arbitrages pour voir... de manière équilibrée pour qu'on ne vise pas les retraités d'une même ou seule province, qu'ils soient bénéficiaires et qu'on trouve juste un milieu pour équilibrer tout et voir, on a dit pour les autres militaires, la garde-chasse par exemple, ce serait une bonne chose parce que avec leur formation, ils seraient là-bas pour rassurer, pour sécuriser notre patrimoine, notre faune. Et donc, tout ceci est contenu dans ce texte de loi. Comprenez 300 articles 266. Je ne pourrais pas aller à l'intérieur, faute de temps.
Voilà, il y a eu beaucoup de réactions. On va peut-être revenir sur quelques-unes. Il est temps de prendre Luc, s'il est en ligne. Luc, vous êtes à Goma, bonjour.
Bonjour, Radio Capitale.
Vous avez la parole,
moi,
Luc.
Moi, je voudrais... Oui,
allez-y, Luc.
Oui, moi je voudrais m'inscrire en faux contre les amis qui ont dit, qui ont félicité les ordonnances, l'ordonnance du président et qui pensent que bon, ça a été une bonne chose de rajeunir notre armée. Mais moi je me dis que ce n'est pas par une simple nomination, une simple ordonnance qu'on peut prétendre réformer notre armée. Notre armée est à un point de délabrement très avancé et on ne peut pas se contenter d'avoir nommé quelques généraux ou envoyer quelques autres à la retraite pour prétendre avoir réformé notre armée. Depuis que le président est là, le président Kabila, depuis 2001, on attend à ce qu'il procède à une bonne, qu'il dote le pays, la RDC, d'une armée à la hauteur de sa dimension. Mais on n'a jamais rien vu. Au contraire, je vais d'ailleurs dénoncer le caractère partial dans cette armée-là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une tribu, une ou deux qui ont plus de 20 généraux déjà. à qui se sont ajoutés une crédit à plus de 20 généraux, alors que les 450 autres se partagent les 20 autres généraux qui restent. Donc c'est vraiment partial et nous proposons simplement qu'on fasse une table rase, qu'on considère qu'il n'y a pas une armée dans ce pays, qu'on fasse une table rase, qu'on procède simplement, qu'on commence à zéro à recruter des jeunes. Mais même si dans le processus de recrutement qu'ils ont amorcé, les jeunes ne se sont pas massivement présentés, c'est parce que cette armée n'inspire confiance à personne. Il faut qu'on commence une nouvelle armée, on se dit qu'il n'y a pas d'armée et puis on commence à zéro, les gens vont venir. Mais si les jeunes doivent venir pour être intégrés dans ces forces qui sont là, ça n'inspire personne. C'est une armée qui est venue... On sait comment elle est là, les forces armées de la RDC, on sait elles viennent d'où, c'est des groupes armés venus, on a braqué, je ne sais pas par quel mécanisme, des Maïmaï, des RCB, et tout ça. Donc voilà un peu ma contribution. Moi je voulais simplement demander à ce que... On reprend tout à zéro.
Voilà, merci beaucoup Luc d'avoir appelé des Goma. Vous avez parlé d'une armée qui est vraiment dans un état de délabrement très avancé. Une simple nomination ne pourrait pas résoudre en soi tous les problèmes auxquels fait face notre armée, l'armée de la RDC. Voilà. Et puis, vous décriez une chose, hein, les caractères partiels de cette ordonnance où vous parlez de généraux qui sont nommés dans une seule tribu. Merci beaucoup, Luc, d'avoir appelé. Étienne, vous êtes à Moineditou. Bonjour.
Bonjour, messieurs les auditeurs de l'Ocapi et ainsi que les invités qui sont tous alliés.
Voilà, Étienne, si vous pouvez parler un peu fort.
Oui, je voulais juste donner mon point de vue. Est-ce que je suis en train d'entendre le général qui dit pour le changement de mentalité. Est-ce que réellement, ils ont changé de mentalité pour tous ceux qui sont recrutés? Parce que j'ai un exemple d'un capitaine. Juste en bas, ça est en commis de Sili, à Kinshasa, qui a commis beaucoup de crimes. Et je sais bien que ce capitaine-là n'était pas juste mis en justice. Et juste là, aujourd'hui, si le capitaine serait écrit et nommé même et major, est-ce que combien fait-il qu'ils ont augmenté encore l'esprit de la criminalité dans ce type de genre de personnes? Et maintenant, le problème en est qu'il faut qu'on nous montre de la manière dont ils sont entrés d'abord d'informer et de faire comprendre à tous les généraux et les capitaines ici et ceux qui réussissent de la manière de les faire voir que non, ils sont en train d'être dans les services du peuple. À ce moment-là, nous saurons voir que non, réellement, ils sont en train de changer.
Merci beaucoup, Étienne. Assistant Olivier, vous êtes à Kikwite, bonjour.
Oui, bonjour, JR, bonjour, auditeur.
Vous avez la parole.
Oui, moi je crois que si les critères de mérite ont été respectés dans les nominations, je vais féliciter ce qui a été promis. Mais au-delà des félicitations, j'aimerais quand même dire certaines choses. Je crois que la réforme de notre armée va avoir des problèmes ou a des problèmes parce que nous n'avons pas su faire le bilan des premières opérations, notamment le mixage et le brassage, parce que le désordre est parti de là. Mixage pour certains, brassage pour d'autres. Et l'invité nous dira, en fait, quel a été le bilan de ces opérations-là. Et je pense qu'il pourrait nous confirmer qu'il y a un désordre. Et si on arrive à faire le bilan de ces opérations, et qu'on arrive à dire, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, on pourra dire, voilà, la réforme devait commencer par le bilan de ces opérations. Alors, deuxième chose, je suis quand même étonné, puis content aussi, de constater que l'invité est d'accord avec nous que il y a une anomalie. La pyramide est renversée. Plus d'officiers que de militaires, enfin de troupes. C'est une anomalie. Nous sommes les seuls dans le monde à avoir une telle armée. Et ça ne peut pas aller, ça ne peut pas être une réforme. On ne devait pas commencer par là. Donc c'est pour dire que les nominations, pour moi, c'est encore une fois placer la chevelure avant les deux, comme nous en avons l'habitude. Alors, nous allons réformer l'armée. L'étranger, après tout le monde l'a demandé, Ban Ki-moon, tout le monde nous a demandé, mais je ne sais pas si c'est eux qui ont dit qu'il fallait commencer par nommer des généraux. Nous avons eu, il y a quelques années, nous avions une armée où on avait moins de 10 généraux, et je pense que ceux qui ont connu les guerres que la RDC a fait, le Congo les a eu à l'époque, a connu, enfin, ils se souviennent donc que les 9, les 6, 7 généraux qu'on avait, je crois qu'ils étaient plus efficaces que ce que nous avons aujourd'hui. Et l'armée de l'époque, on ne peut pas la comparer à celle d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il fallait vraiment faire attention, et c'est là que je vais encore poser une question à l'invité. Cette commission de nomination, en fait, est-elle indépendante ou est-elle une histoire fabriquée par nous trois personnes? Et alors, quelles sont les conditions de travail de cette commission de promotion? Il faudrait que, si c'est possible, que l'invité nous en parle. Alors, il y a un autre problème, c'est que nous sommes, depuis un certain temps, butés à un problème de remerciement des groupes rebelles. Il y a quelques temps, il y a des députés qui sont passés à la radio pour dire que les Bakata Katanga, c'est un problème de mécontentement. Ils n'ont pas été remerciés comme les autres, et ils réclament aussi leurs généraux. Alors, est-ce que, parce que j'aimerais savoir si dans cette nomination, on a pu remercier aussi les Bakata Katanga. Alors, là, une autre chose, l'invité nous dit que c'est un processus de longue haleine, c'est vrai. Mais il faut avoir un calendrier. Il faut avoir un calendrier et avoir des priorités bien hiérarchisées. On doit les hiérarchiser. Et c'est là le problème que nous n'avons, que nous ne savons pas faire. Alors, il faudrait que l'invité qui est tenu compte par les experts, qu'ils nous disent aussi si eux, ils interviennent dans ce genre de métier. Parce que ce n'est pas normal. Et le Parlement dans tout ça, c'est, je suis content de savoir qu'il est dans le Parlement. Est-ce que le Parlement intervient dans ce genre de problème? Alors, pour finir, JR, voilà ce que je constate. Pour moi, le problème de l'armée ne doit pas être pris de façon isolée. Pour moi, c'est la meilleure façon de corrompre la population. Donc, les généraux sont nommés. Dans l'armée, on a quelques mécontents et des personnes qui sont contents. C'est un peu comme dans l'enseignement. Tout le monde est diplômé d'État, c'est aussi la meilleure façon de corrompre. Donc, voilà pour moi comment je fais la lecture de ce dossier-là. C'est la meilleure façon de corrompre. Ok, je crois que je peux terminer par là.
Merci beaucoup, assistant Olivier, d'avoir appelé de Kikwit. Nous retenons une chose, qu'il faudrait, selon vous, penser d'abord à faire les bilans des opérations précédentes. Vous avez cité notamment le mixage et le brassage, parce que tout est parti de là. Vous dites que c'est ça la genèse du problème que nous avons aujourd'hui, l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous posez sans doute la question de savoir si réellement la commission qui travaille... sur les nominations des généraux ou des officiers supérieurs fonctionnent d'une manière indépendante et autonome. Voilà, donc c'est la question qui sera adressée à notre invité tout à l'heure. Et votre inquiétude tourne autour également de calendrier. Le travail qui est bien fait doit avoir un objectif, poursuivre un objectif. C'est vrai que c'est un processus de longue haleine, la réforme, comme vous l'avez dit. Il faudrait qu'il y ait un calendrier, qu'on sente que les priorités sont clairement définies. Et ça pourrait mettre la population du moins en confiance pour dire, mais voilà, ce qui est fait pourrait être salué également de demain. Donc, vous ne saluez pas de demain cette ordonnance comme l'ont fait vos prédécesseurs. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir appelé 081 890 63 15.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa.
Voilà, nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Nous avons dans ce studio l'honorable Boulet, qui est le général à la retraite. Avec lui, nous parlons donc de la poursuite du processus de la réforme avec cette ordonnance nommant les officiers, des officiers généraux et supérieurs des FRDC et de la police. Vous avez suivi les uns et les autres, et la deuxième série et la troisième même. Nous allons juste orienter les préoccupations des uns et des autres, général.
Merci beaucoup. Je voudrais commencer par notre compatriote de Kikwit pour dire le caractère donc partiel de cette commission. Au sein de l'armée, vous savez que c'est le haut commandement militaire qui est composé d'un certain nombre de grands officiers qui ont la responsabilité des unités. Pour évaluer donc les capacités opérationnelles des unités, les menaces et les risques, contraintes budgétaires et administratives, et pour cela faire des propositions concrètes à ce qui concerne le développement. Les bilans, je dois le rassurer, pour avoir pris part sans complaisance, je l'ai dit, le 26 janvier 2010, à un grand briefing à l'état-major général sous l'autorité du ministre de la Défense nationale. Je crois qu'il était évoqué de disposer de l'outil de défense permanente
des forces armées de la République démocratique du Congo. On a évalué également ce qu'il a appelé DDR, ou Mixas et tout ça, pour dire DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, pendant la transition, avait produit ces résultats, nous le savons, ces 18 brigades intégrées. Et la réforme était une nécessité et que les appuis étaient impérativement à solliciter. Et c'est pourquoi toutes ces lois ici l'ont été. Ce n'est pas par la volonté qu'on a eu des pressions à l'extérieur, sinon, à un moment donné, le gouvernement a amené ces séries de documents que nous avons, pendant les mandats passés, discuté et parlé de cela. Et de ce bilan-là, il y a des phases de réforme qu'il fallait commencer. Il fallait le diagnostic des FARDC, ça a été fait. Et le but de la réforme, c'est de rajeunir pour disposer d'une armée professionnelle. Les stratégies globales et la mise en œuvre de ces principes et la feuille de route étaient tracées avec une évaluation du chemin critique entre 2010 et ce qui devait être fait pour disposer des brigades d'intervention, tout en ayant constaté que dans ce que nous disposions, il y avait 70%, je parle sous le contrôle du responsable de ceux qui avaient fait le briefing ces jours-là, mal formé, mais si on ne le fait pas, et pour vous dire, tout était bien fait, parce que les réformes, les recensements qu'on a fait, a dégagé des nombres importants de militaires âgés de plus de 65 ans d'âge, donc au-delà même de certaines limites. C'est comme ça que les autres aujourd'hui se disent, nous n'avons pas fait autant d'années, mais la vieillesse qui les rattrape oblige en ce qu'on mette en application ces statuts. Et ce sont ceux qui sont moins de cela. Donc cette série-là, ce n'est qu'un commencement. Parce que pour la montée en puissance, pour la mise en œuvre, il faut rajeunir fatalement les forces armées, d'une part, et la police aussi, pourquoi pas les services. Et retraiter honorablement. En retraitant honorablement, toutes les conditions de retraite honorables sont prévues dans les différents statuts. Et c'est pourquoi, une fois que les postes dégagés deviennent disponible et budgétisable, il faut maintenant envisager le recrutement. Exactement. Les hommes des rangs, les sous-officiers, les officiers et commencer les formations. Et en même temps, voir jusqu'à quel niveau nous irons, parce que dans ce qui a été fait, dans ce qui a été, il est également prévu qu'on dispose des unités de réaction rapide, des unités de défense principales, et qu'il fallait en formant, en les dotant, en les équipant, les affectant là-bas, des infrastructures qui suivent pour une consolidation qui amènerait les forces armées, in fine, à disposer des unités de couverture ou de défense permanente. Et donc, d'avoir aussi des unités bien préparées pour participer comme pays membre des Nations Unies aux missions de maintien de la paix. Mmh. Et donc, et tout ceci n'est pas le fait du hasard.
Oui, une question de curiosité, honorable Boulet. Aujourd'hui, en temps normal, dans un fonctionnement normal d'une armée, on peut avoir combien des officiers généraux?
Écoutez, les officiers généraux ici, on ne peut pas mettre la barre pour dire, c'est comme pour l'Assemblée nationale, pour dire que nous avons 500. Les j'ai dit ici, les tableaux des emplois. Et donc, je vous donne les emplois interforces au niveau du ministère de la Défense nationale. Le secrétaire général de la Défense peut avoir
comme grade. Ça, c'est par rapport à nos réalités.
Par rapport à nos réalités,
les standards universels.
Ici, les standards universels, par rapport à nos réalités, on a sorti ces catalogues des emplois supérieurs de commandement, des emplois interforces et des emplois en ce qui concerne toutes les forces, avec les grades maximales. On ne peut pas donc dire qu'il faut l'être. Et donc, il est admis que pour le directeur général, par exemple, au niveau du ministère de la Défense nationale ou le secrétaire général, il peut être général de brigade ou général-major. Et donc, c'est cela. Compte tenu de ses fonctions, au niveau de l'armée, pour avoir l'ascendance de poser, de discuter, d'analyser des problèmes qui se posent aux forces armées. Il en est de même pour les unités. Lorsqu'on va là-bas, il y a des grades. Maximum.
Mais avant 97, on n'était pas dans cette situation-là.
Avant 97, on n'était pas dans cette situation. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour avoir ce tableau des emplois qui, maintenant, lorsque vous voyez dans le lot, beaucoup sont mis à la retraite parce qu'un emploi, une unité, un grade, une qualification correspondante.
Voilà, c'est qu'il faut.
Voilà, on va terminer la série des auditeurs. On ramasse les deux et puis on conclut une fois pour toutes.
D'accord.
Blaise qui est à Goma et Lambert est à Kinshasa. Blaise, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je suis à l'écoute.
Voilà, Blaise, rapidement, vous avez une minute et puis Lambert aussi aura droit à une minute et puis on va conclure avec notre invité qui va ramasser quelques réactions qui restent encore. Blaise, vous avez la parole.
Vraiment, pour le processus de la réforme de notre armée, ça c'est une distraction. Moi, je ne trouve aucun impact. Il n'y a pas de suivi dans l'armée. On peut mettre des règlements. Dans cette armée-là, mais là, il y a les règlements militaires. Mais ces règlements-là ne sont pas suivis. Je vous donne un exemple.
Oui, rapidement, parce que vous n'avez qu'une minute.
Oui, je vous donne... Pardon?
Vous n'avez qu'une minute, donc il faut les dire rapidement.
Oui, je vous donne un exemple. Regardez, il y a une unité qui est venue de Mbana quand nous sommes à Goma. C'est quoi ça, un régiment? Juste maintenant, leur argent est bloqué en Banaka. Vous dites que c'est une armée, les échelons, les archives militaires connaissent ça. Alors, ces militaires-là, c'est de combattre. Ils auront quelle morale?
Voilà, donc là vous posez encore le problème des conditions sociales, les conditions des militaires. Bon, je crois que la loi a défini, il y a quand même des dispositions là-dedans. On va revenir avec notre invité tout à l'heure. Et puis on termine avec vous, Lambert. Lambert, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la Dokopi.
Oui, rapidement, vous avez une minute.
Je considère cette ordonnance comme un colorant conduit qui est ajouté dans un produit pharmaceutique. Puisque jusque-là, on va définir ça. Nous ne savons pas l'objectif poursuivi par cette ordonnance. Ça, c'est le 1. Le 2, sur base de quoi on a évalué ces gens qui sont partis en retraite et ceux qui sont restés sur base de quoi. En plus de ça, je veux revenir sur la nomination. Moi, je vous rassure que j'ai jamais de musicien. Des musiciens qui sont nommés colonels. La personne là derrière les musiciens, on va nommer par le président de la République un colonel. Et pour terminer, je ne sais pas le rôle de la fonction des membres du cabinet du ministre, de monsieur le président, puisque pas longtemps qu'il y a des présidents venaient même de nominer les décédés, les colonels, les décédés sont affectés comme des magistrats.
Voilà, donc là vous évoquez quelques irrégularités que vous avez pu constater dans cette ordonnance. Merci beaucoup à Lambert d'avoir appelé, honorable Boulet, en conclusion, parce qu'on va ramasser les préoccupations des uns et des autres.
En conclusion, en ce qui concerne les salaires des militaires qui sont dans une autre garnison, qui sont là-bas, c'est une question d'administration. Et que c'est extrêmement grave que ça affecte effectivement le moral des militaires, que leur salaire aille là-bas, alors que tout doit être géré au niveau des forces pour aiguiller, savoir comment envoyer le salaire des militaires.
Sur le plan psychologique, qui seront déjà
affectés. Je suis parfaitement d'accord en ce qui concerne l'intervenant qui a parlé des irrégularités. Il faudrait nous en tenir certainement aux dispositions de l'article 189 de la Constitution. Les effectifs à tous les niveaux de fonction de commandement en tout temps et en toutes circonstances doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique et à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée, ainsi qu'à une représentation équitable des provinces. Il a raison qu'une province ne puisse pas avoir autant d'officiers généraux par rapport à d'autres provinces. Donc c'est une anomalie et tout cela nous interpelle, nous, législateurs, de voir d'aller peut-être par des mécanismes de contrôle parlementaire pour savoir le bien fondé de cela. En ce qui concerne les conditions de travail, oui, en ce qui concerne les décédés dans l'armée, qu'on se rappelle bien, il y a toujours, à titre posthume, on a toujours donc nommé des gens pour les travaux, pour les hauts faits d'armes pour lesquels ils ont. Donc ici, je voudrais dire que donc par rapport au texte, je m'en tiens à ça, parce que ce que nous faisons ici, c'est une communication qui ne soit pas une communication politique. Nous faisons des efforts pour répondre aux questions de certains auditeurs pour la bonne compréhension de ceci. Il est vrai, en ce qui concerne la communication institutionnelle, que le ministre en charge de la Défense nationale puisse expliciter les contenus de cette
position. Nous avons essayé, nous avons essayé par plusieurs fois d'être en contact avec lui.
Il y a une crise de communication institutionnelle. Et donc, en venant ici, je ne voudrais pas m'attribuer que je viens au nom de mon institution. Je viens comme invité
un expert
pour donner ce que je peux faire.
Nous frappons toujours les portes du ministère de la Défense. Mais généralement, on nous dit qu'il ne peut pas communiquer, il ne peut pas donner des explications. Alors, nous ne pouvons pas faire. C'est sans succès que nous entrons en contact avec eux, mais nous essaierons toujours de les faire pour question de vulgariser, de sensibiliser et d'apporter l'information à la population. Merci beaucoup, honorable Boulay, général à la retraite, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait les déplacements de ce studio pour la énième fois afin d'expliquer et de vulgariser cette loi et aussi réfléchir ensemble avec les auditeurs par rapport à cette ordonnance. Une fois encore, merci et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Voilà, nous disons également merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à Jean-Claude Tiala, Titi Poutou et Pierre Lamégi qui l'ont réalisé. Gilles Lungembo vous l'a présenté sous la supervision de Nicole Ngaka. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.